Chapitre 3. Un fermier philosophe bucolique. Pitou courait comme si tous les diables d'enfer eussent été à ses trousses, et en un instant, il fut hors de la ville. En tournant le coin du cimetière, il faillit donner du nez dans le derrière d'un cheval. « Bon Dieu !» dit une voix douce, bien connue de Pitou. « Où courez-vous ainsi, monsieur Ange? Vous avez manqué faire prendre le mort aux dents à Cadet de la peur que vous nous avez faite. » « Ah, mademoiselle Catherine !» s'écria Pitou, répondant à sa propre pensée, et non à l'interrogation de la jeune fille. « Ah, mademoiselle Catherine, quel malheur, mon Dieu, quel malheur !»« Jésus, vous m'effrayez ?» dit la jeune fille, arrêtant son cheval au milieu du chemin. « Qu'y a-t-il donc, monsieur Ange ?»« Il y a, » répondit Pitou, comme s'il fallait révéler un mystère d'iniquité, « il y a que je ne serai pas abbé, mademoiselle Catherine. » Mais au lieu de gesticuler dans le sens qu'attendait Pitou, mademoiselle Billot partit d'un grand éclat de rire. « Vous ne serez pas abbé, » dit-elle. « Non, » répondit Pitou, consterné, « il paraît que c'est impossible. »« Eh bien alors, vous serez soldat, » dit Catherine. « Soldat ? Sans doute, il ne faut pas se désespérer. Pour si peu de choses, mon Dieu, j'avais d'abord cru que vous veniez m'annoncer la mort subite de mademoiselle votre tante. » « Ah, » dit Pitou avec sentiment, « c'est exactement la même chose pour moi que si elle était morte, puisqu'elle me chasse. »« Pardon, » dit la Billot en riant, « il vous manque cette satisfaction de la pouvoir pleurer. » Et Catherine se mit à rire de plus belle, ce qui scandalisa de nouveau Pitou. « Mais vous n'avez donc pas entendu qu'elle me chasse ?» reprit l'écolier désespéré. « Eh bien, tant mieux, » dit-elle. « Vous êtes bien heureuse de rire comme cela, mademoiselle Billot, et ça prouve que vous avez un bien agréable caractère, puisque les chagrins des autres ne vous font pas une plus grande impression. Et qui donc vous dit que s'il vous arrivait un chagrin véritable, je ne vous plaindrais pas, hein, monsieur Ange ?»« Vous me plaindriez s'il m'arrivait un chagrin véritable, mais vous ne savez donc pas que je suis sans ressources ?»« Ah, tant mieux encore !» fit Catherine. Et Pitou n'y était pas le moins du monde. « Et manger, dit-il, il faut manger pourtant, mademoiselle, surtout moi, qui ai toujours faim. Vous ne voulez donc pas travailler, monsieur Pitou ? Travailler ? Et à quoi ? Monsieur Fortier et ma tante Angélique m'ont répété plus de 100 fois que je n'étais bon à rien. Ah, si l'on m'avait mis en apprentissage chez un menuisier, chez un charron, au lieu de vouloir faire de moi un abbé, décidément, tenez, mademoiselle Catherine, fit Pitou avec un geste de désespoir, décidément, il y a une malédiction sur moi. « Hélas !» dit la jeune fille avec compassion, car elle savait, comme tout le monde, l'histoire lamentable de Pitou. « Il y a du vrai dans ce que vous dites là, mon cher monsieur Ange, mais pourquoi ne faites-vous pas une chose ?»« Laquelle ?» dit Pitou, en se cramponnant à la proposition à venir de mademoiselle Billot, comme un noyé se cramponne à une branche de saule. « Laquelle ?» dites. « Vous aviez un protecteur, ce me semble. Monsieur le docteur Gilbert. » Vous étiez le camarade de classe de son fils, puisqu'il a été élevé, comme vous, chez l'abbé Fortier. Je le crois bien, et même je l'ai empêché plus d'une fois d'être rossé. Eh bien, pourquoi ne vous adressez-vous pas à son père? Il ne vous abandonnera point. Dame, je le ferais certainement si je savais ce qu'il était devenu, mais peut-être votre père le sait-il, mademoiselle Billot, puisque le docteur Gilbert est son propriétaire. Je sais qu'il lui fait passer une partie des fermages en Amérique et qu'il plaçait l'autre chez un notaire de Paris. « Ah !» dit en soupirant Pitou, « en Amérique, c'est bien loin. »« Vous iriez en Amérique, vous ?» dit la jeune fille, presque effrayée de la résolution de Pitou. « Oh, moi, mademoiselle Catherine, jamais, jamais, non. Si je savais où et quoi manger, je me trouverais très bien en France. » « Très bien, » répéta mademoiselle Billot. Pitou baissa les yeux. La jeune fille garda le silence. Ce silence dura quelque temps. puis tout était plongé dans des rêveries qui eussent bien surpris l'abbé Fortier, homme logique. Ces rêveries, parties d'un point obscur, s'étaient éclaircies, puis étaient devenues confuses, quoique brillantes comme des éclairs dont l'origine est cachée, dont la source est perdue. Cependant, Cadet s'était remis en marche au pas, et Pitou marchait près de Cadet, une main appuyée sur un des paniers. Quant à Mademoiselle Catherine, rêveuse de son côté comme Pitou l'était du sien, elle laissait flotter les rênes sans craindre que son coursier s'emportât. D'ailleurs, il n'y avait pas de monstre sur le chemin, et Cadet était d'une race qui n'avait aucun rapport avec les chevaux d'Hippolyte. Pitou s'arrêta machinalement quand le cheval s'arrêta. On était arrivé à la ferme. « Ah, tiens, c'est toi, Pitou !» s'écria un homme d'une encolure puissante, campé assez fièrement devant une mare où il faisait boire son cheval. « Eh, mon Dieu, oui, monsieur Biot, c'est moi-même !»« Encore un malheur arrivé à ce pauvre Pitou !» dit la jeune fille en sautant à bas de son cheval, sans s'inquiéter si son jupon, en se relevant, montrait la couleur de ses jarretières. Sa tante le chasse. « Et qu'a-t-il donc encore fait à cette vieille bigote ?» dit le fermier. « Il paraît que je ne suis pas assez fort en grec, » dit Pitou. Il se vantait, le fa, c'était en latin qu'il aurait dû dire. « Pas assez fort en grec ?» dit l'homme aux larges épaules. « Et pourquoi veux-tu être fort en grec ?»« Mais pour expliquer Théocrite et lire l'Iliade. » « À quoi cela te servirait-il d'expliquer... » Théocrite et de lire l'Iliade, ça me servirait à être abbé. Bah, dit monsieur Biot, est-ce que je sais le grec? Est-ce que je sais le latin? Est-ce que je sais le français? Est-ce que je sais écrire? Est-ce que je sais lire? Ça ne m'empêche pas de semer, de récolter, d'engranger. Oui, mais vous, monsieur Biot, vous n'êtes pas abbé, vous êtes cultivateur. Agricola, comme dit Virgile. Oh, fortunatos nimium. Eh bien, crois-tu donc qu'un cultivateur ne soit pas l'égal d'un calotin, dis donc, mauvais enfant de cœur? Surtout quand ce cultivateur a 60 arpents de terre au soleil et 1 000 000 de louis à l'ombre. On m'a toujours dit que d'être abbé, c'était ce qu'il y avait de mieux au monde. Il est vrai, ajouta Pitou, en souriant de son sourire le plus agréable, que je n'ai pas toujours écouté ce qu'on me disait. Et tu as eu raison, garçon. Tu vois que je fais des vers comme un autre quand je m'en mêle, moi. Il me semble qu'il y a en toi de l'étoffe pour faire mieux qu'un abbé, et que c'est un bonheur que tu ne prennes pas cet état, surtout dans ce moment-ci. Vois-tu, en ma qualité de fermier, je me connais au temps, et le temps est mauvais pour les abbés. Bah, fit Pitou. Oui, il y aura de l'orage, dit le fermier. Ainsi donc, crois-moi, tu es honnête, tu es savant. Pitou salua, fort honoré d'avoir été appelé savant pour la première fois de sa vie. Tu peux donc gagner ta vie sans cela, continua le fermier. Mademoiselle Biot, tout en mettant à bas les poulets et les pigeons, écoutait avec intérêt le dialogue établi entre Pitou et son père. « Gagner ma vie, reprit Pitou, cela me paraît bien difficile. Et que sais-tu faire ? Ah, dame, je sais tendre des gluots et poser des collets. J'imite assez bien le chant des oiseaux, n'est-ce pas, mademoiselle Catherine ? Ah, pour ça, c'est vrai, il chante comme un pinson. » Oui, mais tout cela n'est point un état, reprit le père Biot. C'est bien ce que je dis, parbleu. Ah, tu jures, c'est déjà bon. Comment ? J'ai juré, dit Pitou. Ah, je vous demande bien pardon, monsieur Biot. Oh, il n'y a pas de quoi, dit le fermier, cela m'arrive quelquefois aussi à moi. Eh, tonnerre de Dieu, continua-t-il en se retournant vers son cheval, te tiendras-tu un peu tranquille, toi ? Ah, ces diables de percherons, il faut toujours qu'ils gazouillent ou qu'ils se trémoussent. Voyons, reprit-il encore en revenant à Pitou, es-tu paresseux ? Je ne sais pas, je n'ai jamais fait que du latin et du grec, et quoi ? Je dois dire que je n'y mordais pas beaucoup. Ah, tant mieux, dit Biot, ça prouve que tu n'es pas encore si bête que je croyais. Et Pitou ouvrait des yeux d'une effrayante dimension. C'était la première fois qu'il entendait professer cet ordre d'idées subversif de toutes les théories qu'il avait entendu poser jusque-là. « Je demande, dit Biot, si tu es paresseux à la fatigue. »« Oh, à la fatigue, c'est autre chose, dit Pitou. Ah, non, non, je ferais bien 10 lieues sans être fatigué.
Bon, c'est déjà quelque chose, reprit Billot. En te faisant maigrir encore de quelques livres, tu pourras devenir coureur.
Maigrir, dit Pitou, en regardant sa taille mince, ses longs bras osseux et ses longues jambes en échalas.
Il me semblait, monsieur Billot, que j'étais assez maigre comme cela.
En vérité, mon ami, dit le fermier en éclatant de rire, tu es un trésor. C'était encore la première fois que Pitou était estimé à un si haut prix. Aussi marchait-il de surprise en surprise.
« Écoute-moi, dit le fermier, je te demande si tu es paresseux au travail. »«
À quel travail ?»«
Ben, au travail, en général. »«
Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais travaillé. » La jeune fille se mit à rire, mais cette fois, le père Billot prit la chose au sérieux.
« C'est coquin de prêtre, dit-il, en étendant son gros poing vers la ville. Voilà pourtant comment ils élèvent la jeunesse dans la fainéantise et l'inutilité. À quoi un pareil gaillard-là, je vous le demande, peut-il être bon à ses frères ?»«
Oh, à pas grand-chose, dit Pitou, je le sais bien, heureusement que je n'ai pas de frères. »
Par frère, dit Billot, j'entends tous les hommes en général. Voudrais-tu dire que tous les hommes ne sont pas frères par hasard ?»
Oh, si fait, d'ailleurs, c'est dans l'Évangile.
Et égaux, continua le fermier.
Ah, ça, c'est autre chose, dit Pitou. Si j'avais été l'égal de l'abbé Fortier, il ne m'aurait pas si souvent donné du Bartinet, de la férule, et si j'avais été l'égal de ma tante, elle ne m'aurait pas chassé.
Je te dis que tous les hommes sont égaux, reprit le fermier, et nous le prouverons bientôt au tyran.
Tyrannis, reprit Pitou.
Et la preuve, continua Billot, c'est que je te prends chez moi.
Vous me prenez chez vous, mon cher monsieur Billot, n'est-ce pas pour vous moquer de moi que vous me dites des choses pareilles?
Non, voyons, voyons, que te faut-il pour vivre?
Dame, 3 livres de pain à peu près par jour,
et avec ton pain, un peu de beurre ou du fromage.
Allons, allons, dit le fermier, je vois que tu n'es pas difficile à nourrir. Eh bien, on te nourrira.
« Monsieur Pitou, dit Catherine, n'avez-vous rien d'autre à demander à mon père ?»«
Moi, mademoiselle, oh, mon Dieu, non. »«
Et pourquoi donc êtes-vous venu ici, alors ?»«
Parce que vous y veniez. »«
Ah, voilà qui est tout à fait galant, dit Catherine, mais je n'accepte le compliment que pour ce qu'il vaut. »«
Vous êtes venu, monsieur Pitou, pour demander à mon père des nouvelles de votre protecteur. »
Ah, c'est vrai, dit Pitou. Tiens, c'est drôle, je l'avais oublié.
Ah, tu veux parler de ce digne monsieur Gilbert, dit le fermier, d'un ton de voix qui indiquait le degré de profonde considération qu'il avait pour son propriétaire.
Justement, dit Pitou, mais je n'en ai plus besoin maintenant, puisque monsieur Billot me prend chez lui, je puis attendre tranquillement son retour d'Amérique.
En ce cas, mon ami, tu n'auras pas à attendre longtemps, car il en est revenu.
Ah bah, fit Pitou, et quand cela?
Je ne sais pas où juste, mais ce que je sais, c'est qu'il était au Havre il y a 8 jours, car il y a là dans mes fontes un paquet qui vient de lui, qu'il m'a adressé en arrivant et qu'on m'a remis ce matin même à Villers-Cotterêts. Et la preuve, c'est que le voilà.
Qui vous a donc dit que c'était lui, mon père?
Et parbleu, puisqu'il y avait une lettre dans le paquet.
« Excusez, mon père, dit en souriant Catherine, mais je croyais que vous ne saviez pas lire. Je vous dis cela, papa, parce que vous vous vantez de ne pas le savoir. »«
Oui, da, je m'en vante. Je veux qu'on puisse dire, le père Billot ne doit rien à personne, pas même à un maître d'école. Il a fait sa fortune par lui-même, le père Billot. Voilà ce que je veux qu'on puisse dire. Ce n'est donc pas moi qui ai lu la lettre, c'est le maréchal des logis de la gendarmerie que j'ai rencontré. »
« Et que vous disait-elle cette lettre, mon père? Il est toujours content de nous, n'est-ce pas?
Juge-en. »
Et le fermier tira d'un portefeuille de cuir une lettre qu'il présenta à sa fille. Catherine lut.
« Mon cher monsieur Billot, j'arrive d'Amérique où j'ai trouvé un peuple plus riche, plus grand et plus heureux que le nôtre. Cela vient de ce qu'il est libre et que nous ne le sommes pas. Mais nous marchons, nous aussi, vers une ère nouvelle et il faut que chacun travaille à hâter le jour où la lumière luira.
Je connais vos principes, mon cher monsieur Billot. Je sais votre influence sur les fermiers, vos confrères, et sur toute cette brave population d'ouvriers et de laboureurs à qui vous commandez, non pas comme un roi, mais comme un père. Inculquez-leur les principes de dévouement et de fraternité que j'ai reconnus en vous. La philosophie est universelle. Tous les hommes doivent lire leurs droits et leurs devoirs à la lueur de son flambeau. Je vous envoie un petit livre dans lequel tous ces devoirs et tous ces droits sont consignés. Ce petit livre est de moi, quoique mon nom ne soit pas sur la couverture. Propagez-en les principes qui sont ceux de l'égalité universelle, faites-le lire tout haut dans les longues veillées d'hiver. La lecture est la pâture de l'esprit, comme le pain est la nourriture du corps. Un de ces jours, j'irai vous voir et vous proposer un nouveau mode de fermage fort en usage en Amérique. Il consiste à partager la récolte entre le fermier et le propriétaire, ce qui me paraît plus selon les lois de la société primitive et surtout selon le cœur de Dieu. Salut et fraternité, signé Honoré Gilbert, citoyen de Philadelphie. Oh, fit Pitou, que voilà une lettre qui me semble bien rédigée. Ah, n'est-ce pas, dit Billot. Oui, mon cher père, dit Catherine, mais je doute que le lieutenant de gendarmerie soit de votre avis. Pourquoi cela? Parce qu'il me semble que cette lettre peut compromettre non seulement le docteur Gilbert, mais encore vous-même. Bah, dit Billot, tu as toujours peur, toi. Ça n'empêche pas que voilà la brochure et voilà ton emploi tout trouvé, Pitou. Le soir, tu la liras. Et dans la journée, tu garderas les moutons et les vaches. Voilà toujours ta brochure. Et le fermier tira de ses fontes une de ces petites brochures à couverture rouge, comme il s'en publiait grand nombre à cette époque, avec ou sans permission de l'autorité. Seulement, dans ce dernier cas, l'auteur risquait les galères. Lis-moi le titre de cela, Pitou, que je parle toujours du titre en attendant que je parle de l'ouvrage. Tu me liras le reste plus tard. Pitou lut sur la première page ces mots que l'usage a fait bien vagues et bien insignifiants depuis, mais qui avaient à cette époque un profond retentissement dans tous les cœurs. « De l'indépendance de l'homme et de la liberté des nations. » « Ah, que dis-tu de cela, Pitou ?» demanda le fermier. « Je dis qu'il me semble, monsieur Billot, que l'indépendance et la liberté, c'est la même chose. Mon protecteur serait chassé de la classe de monsieur Fortier pour clause de pléonasme. »« Pléonasme ou non, c'est le livre d'un homme, ce livre-là, » dit le fermier. « N'importe, mon père, » dit Catherine, avec cet admirable instinct des femmes, « cachez-le, je vous en supplie, il vous fera quelque mauvaise affaire. Moi, je sais que je tremble rien que de le voir. » « Eh, pourquoi veux-tu qu'il me nuise à moi, puisqu'il n'a pas nui à son auteur ?»« Qu'en savez-vous, mon père? Il y a 8 jours que cette lettre est écrite et le paquet n'a pu mettre 8 jours pour arriver du Havre ici. Moi aussi, j'ai reçu une lettre ce matin. » « Et de qui ?»« De Sébastien Gilbert, qui nous écrit de son côté. Il me charge même de dire bien des choses à son frère de lait, Pitou. J'avais oublié la commission, moi. »« Eh bien ?»« Eh bien, il dit que depuis 3 jours, on attend à Paris son père, qui devait arriver et qui n'arrive pas. »« Ah, mademoiselle a raison, dit Pitou. Il me semble que ce retard est inquiétant. » « Tais-toi, peureux, et lis le traité du docteur, » dit le fermier, « alors tu deviendras non seulement un savant, mais encore un homme. » On parlait ainsi à cette époque, car on était à la préface de cette grande histoire grecque et romaine que la nation française copia pendant 10 ans dans toutes ses phases, dévouement, proscription, victoire et esclavage. Pitou mit le livre sous son bras avec un geste si solennel qu'il acheva de gagner le cœur du fermier. « Maintenant, dit Billot, as-tu dîné ?»« Non, monsieur, » répondit Pitou, conservant l'attitude semi-religieuse, semi-héroïque qu'il avait prise depuis qu'il avait reçu le livre. « Il allait justement dîner quand on l'a chassé, » dit la jeune fille. « Eh bien, dit Billot, va demander à Mère Billot l'ordinaire de la ferme et demain tu entreras en fonction. » Pitou remercia d'un regard éloquent Monsieur Billot et, conduit par Catherine, il entra dans la cuisine, gouvernement placé sous la direction absolue de Madame Billot.
Madame Billot était une grosse maman de 35 à 36 ans, ronde comme une boule, fraîche, potelée, cordiale, trottant sans cesse du colombier au pigeonnier, de l'étable au mouton à l'étable à vache, inspectant son pot-au-feu, ses fourneaux et son rôti, comme fait un général expert de ses cantonnements, jugeant d'un seul coup d'œil si tout était à sa place et à la seule odeur si le thym et le laurier étaient distribués dans les casseroles en quantité suffisante, grognant par habitude, mais sans la moindre intention que sa grognerie leur soit désagréable, son mari, qu'elle honorait à l'égal du plus grand potentat, sa fille, qu'elle l'aimait certes plus que Madame de Sévigné n'aimait Madame de Grignan, et ses journaliers, qu'elle nourrissait comme aucune fermière à 10 lieues à la ronde ne nourrissait les siens. Aussi y avait-il concurrence pour entrer chez Monsieur Billot. Mais là, malheureusement, comme au ciel, comparativement à ceux qui s'y présentaient, il y avait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous avons vu que Pitou, sans être appelé, avait été élu. C'était un bonheur qu'il apprécia à sa juste valeur, surtout quand il vit la miche dorée que l'on plaça à sa gauche, le pot de cidre que l'on mit à sa droite et le morceau de petit salé que l'on posa devant lui. Depuis l'époque où il avait perdu sa pauvre mère, et il y avait de cela 5 ans, Pitou, même les jours de grandes fêtes, n'avait pas joui d'un pareil ordinaire. Aussi Pitou, plein de reconnaissance, sentait-il, à mesure qu'il engloutissait le pain qu'il dévorait, le petit salé qu'il humectait avec une large décoction de cidre, aussi Pitou sentait-il augmenter son admiration pour le fermier, son respect pour sa femme et son amour pour sa fille. Une seule chose le tracassait, c'était cette fonction humiliante qu'il devait remplir le jour de garder les moutons et les vaches, fonction si peu en harmonie avec celle qui lui était réservée le soir et qui avait pour but d'instruire l'humanité des principes les plus élevés de la sociabilité et de la philosophie. Ce fut à quoi rêva Pitou après son dîner, mais même dans cette rêverie, l'influence de cet excellent dîner se fit sentir. Pitou commença à envisager les choses sous un tout autre point de vue qu'il ne l'avait fait à jeun. Ses fonctions de gardien de moutons et de meneur de vaches, qu'il regardait comme si fort au-dessous de lui, avaient été remplies par des dieux et des demi-dieux. Apollon, dans une situation à peu près pareille à la sienne, c'est-à-dire chassé de l'Olympe par Jupiter, comme lui, Pitou, avait été chassé du pleu par sa tante Angélique, s'était fait berger et avait gardé les troupeaux d'Admète. Il est vrai qu'Admète était un roi pasteur, mais aussi Apollon était un dieu. Hercule avait été vaché, ou à peu près, puisqu'il avait, dit la mythologie, tiré par la queue les vaches de Gérion. Et qu'on mène les vaches par la queue ou qu'on les mène par la tête, c'est une différence dans les habitudes de celui qui les mène, voilà tout. Cela ne peut pas empêcher qu'à tout prendre, il ne soit un meneur de vaches, c'est-à-dire un vacher. Il y a plus ce tityre couché au pied d'un être dont parle Virgile et qui se félicite en si beau vers du repos qu'Auguste lui a fait. C'était un berger aussi. Enfin, c'était un berger encore que ce Mélibée qui se plaint si poétiquement de quitter ses foyers. Certes, tous ces gens-là parlaient assez bien le latin pour être abbés, et cependant ils préféraient voir brouter le sitis amer à leurs chèvres, à dire la messe et à chanter les vêpres. Il fallait donc qu'à tout prendre, l'état de berger eût aussi des charmes. D'ailleurs, qui empêchait Pitou de lui rendre la dignité et la poésie qu'il avait perdue? Qui empêchait Pitou de proposer des combats de chant aux Ménalques et aux Palémons des villages environnants? Personne, bien certainement. Et Pitou avait plus d'une fois chanté au lutrin, et s'il n'avait pas été pris une fois à boire le vin des burettes de l'abbé Fortier, qui, avec sa rigueur ordinaire, l'avait destitué de sa dignité d'enfant de cœur à l'instant même, ce talent pouvait le mener loin. Il ne savait pas jouer du pipeau, c'est vrai, mais il savait jouer sur les tons de la pipette, ce qui devait se ressembler beaucoup.
Il ne taillait pas lui-même sa flûte au tuyau d'inégale grandeur comme faisait l'amant de Syrinx, mais avec du tilleul et du marronnier, il faisait des sifflets dont la perfection, plus d'une fois, lui valut les applaudissements de ses camarades. Pitou pouvait donc être berger sans par trop déroger. Il ne descendait pas jusqu'à cet état mal apprécié dans les temps modernes. Il élevait cet état jusqu'à lui. D'ailleurs, les bergeries étaient placées sous la direction de Mademoiselle Billot, et ce n'était pas recevoir des ordres que les recevoir de la bouche de Catherine. Mais à son tour, Catherine veillait sur la dignité de Pitou. Le soir même, alors que le jeune homme s'approcha d'elle et lui demanda à quelle heure il devait partir pour aller rejoindre les bergers, « Vous ne partirez pas, » répondit en souriant Catherine. « Et comment ?» dit Pitou, étonné. « J'ai fait comprendre à mon père que l'éducation que vous aviez reçue vous plaçait au-dessus des fonctions qu'il vous destinait. Vous resterez à la ferme. »« Ah, tant mieux, » dit Pitou, « ça fait que je ne vous quitterai pas. » L'exclamation était échappée au naïf Pitou, mais il ne l'eut pas plutôt proféré que le rouge lui monta aux oreilles, tandis que de son côté Catherine baissait la tête et souriait. « Ah, pardon, mademoiselle, cela m'est sorti malgré moi du cœur, il ne faut pas m'en vouloir pour cela, » dit Pitou. « Je ne vous en veux pas non plus, monsieur Pitou, » dit Catherine, « et ce n'est point votre faute si vous avez du plaisir à rester avec moi. » Il se fit un moment de silence. Il n'y avait rien d'étonnant. Les deux pauvres enfants s'étaient dit tant de choses en si peu de paroles. « Mais, demanda Pitou, je ne puis pas rester à la ferme sans rien faire. Que ferai-je à la ferme ? Vous ferez ce que je faisais. Vous tiendrez les écritures, les comptes avec les journaliers, les recettes, les dépenses. Vous savez calculer, n'est-ce pas ? Je sais, mes quatre règles, répondit fièrement Pitou. « Ah !» « C'est une de plus que moi, » dit Catherine, « je n'ai jamais pu aller au-delà de la troisième. Hein, vous voyez que mon père gagnera à vous avoir pour comptable, comme j'y gagnerai de mon côté, et comme vous y gagnerez le vôtre, tout le monde y gagnera. »« Et en quoi y gagnerez-vous, mademoiselle ?» dit Pitou. « Alors, j'y gagnerai du temps, et pendant ce temps, je me fabriquerai des bonnets pour être plus jolie. »« Ah, » dit Pitou, « je vous trouve déjà bien jolie sans bonnet, moi. » Ah, « c'est possible, mais ceci n'est que votre goût particulier à vous, » dit la jeune fille en riant. « D'ailleurs, je ne puis pas aller danser le dimanche à Villers-Cotterêts sans avoir une espèce de bonnet sur la tête. C'est bon pour les grandes dames qui ont le droit de mettre de la poudre et d'aller tête nue. Je trouve vos cheveux plus beaux que s'ils avaient de la poudre, moi, » dit Pitou. « Allons, allons, je vois que vous êtes en train de me faire des compliments. » « Oh non, mademoiselle, je ne sais pas en faire. Chez l'abbé Fortier, on n'apprenait pas cela. »« Et apprenait-on à danser ?»« À danser ?» demanda Pitou avec étonnement. « Oui, à danser. À danser chez l'abbé Fortier. Jésus, mademoiselle, ah bien oui, à danser. »« Alors, vous ne savez pas danser ?» dit Catherine. « Non, » dit Pitou. « Eh bien, vous m'accompagnerez dimanche à la danse, et vous regarderez danser monsieur de Charny. C'est lui qui danse le mieux de tous les jeunes gens des environs. »« Qu'est-ce que c'est que monsieur de Charny ?» demanda Pitou. « C'est le propriétaire du château de Boursonne. Il dansera donc dimanche ?»« Sans doute. Et avec qui ?»« Avec moi. » Le cœur de Pitou se serra sans qu'il sût pourquoi. « Alors, dit-il, c'est pour danser avec lui ?» que vous voulez vous faire belle, pour danser avec lui, pour danser avec les autres, avec tout le monde, excepté avec moi. Et pourquoi pas avec vous, puisque je ne sais pas danser, moi. Et vous apprendrez. Ah, si vous vouliez me montrer, vous, mademoiselle Catherine, j'apprendrais bien mieux qu'en regardant monsieur de Charny, je vous assure. Nous verrons cela, dit Catherine. En attendant, il est l'heure de nous coucher. Bonsoir, Pitou. « Bonsoir, mademoiselle Catherine. » Il y avait du bon et du mauvais dans ce qu'avait dit mademoiselle Billot à Pitou. Le bon, c'est qu'il était élevé de la fonction de berger et de vacher à celle de teneur de livre. Le mauvais, c'est qu'il ne savait pas danser, et que monsieur de Charny le savait. Au dire de Catherine, il dansait même mieux que tous les autres. Pitou rêva toute la nuit qu'il voyait danser monsieur de Charny et qu'il dansait fort mal.
Le lendemain, Pitou se mit à la besogne sous la direction de Catherine. Alors une chose le frappa, c'est combien, avec certains maîtres, l'étude est une chose agréable. Au bout de 2 heures, il était parfaitement au courant de son travail. « Ah, mademoiselle, dit-il, si vous m'aviez montré le latin au lieu que ce fût l'abbé Portier, je crois que je n'aurais pas fait de barbarisme. »« Et vous auriez été abbé ?»« Et j'aurais été abbé, dit Pitou. » De sorte que vous vous seriez enfermé dans un séminaire où jamais une femme n'aurait pu entrer. Ah, tiens, dit Pitou, je n'avais jamais songé à cela, mademoiselle Catherine. Oh, j'aime bien mieux ne pas être abbé. À 9 heures, le père Billot rentra. Il était sorti avant que Pitou ne fût levé. Tous les matins, à 3 heures, le fermier présidait à la sortie de ses chevaux et de ses charretiers. Puis il courait les champs jusqu'à 9 heures pour voir si tout le monde était à son poste et si chacun faisait sa besogne. À 9 heures, il rentrait déjeuner et sortait de nouveau à 10. À 1 heure, on dînait, et l'après-dîner, comme les heures du matin, se passaient en inspection. Aussi, les affaires du père Billot allaient à merveille. Comme il l'avait dit, il possédait une 60aine d'arpents au soleil et 1 millier de louis à l'ombre. Et il est même probable que si l'on eût bien compté, que si Pitou eût fait ce compte, et qu'il ne fût pas trop distrait par la présence ou par le souvenir de mademoiselle Catherine, il se fût trouvé quelques louis et quelques arpents de terre de plus qu'il n'en avait avoué le bonhomme Billot. En déjeunant, le fermier prévint Pitou que la première lecture de l'ouvrage du docteur Gilbert aurait lieu le surlendemain dans la grange à 10 heures du matin. Pitou fit timidement observer que 10 heures du matin, c'était l'heure de la messe, mais le fermier répondit qu'il avait justement choisi cette heure-là pour éprouver ses ouvriers. Nous l'avons dit, le père Billot était philosophe. Il détestait les prêtres qu'il regardait comme des apôtres de la tyrannie, et trouvant une occasion d'élever autel contre autel, il saisissait cette occasion avec empressement. Mademoiselle Billot et Catherine hasardèrent quelques observations, mais le fermier répondit que les femmes iraient si elles voulaient à la messe, attendu que la religion était faite pour les femmes, mais que pour les hommes, ils entendraient la lecture de l'ouvrage du docteur ou qu'ils sortiraient de chez lui. Le philosophe Billot était fort despote dans sa maison. Catherine seule avait le privilège d'élever la voix contre ses décisions, mais si ses décisions étaient assez arrêtées dans l'esprit du fermier pour qu'il répondît à Catherine en fronçant le sourcil, Catherine se taisait comme les autres. Seulement Catherine ne songea à tirer parti de la circonstance au profit de Pitou. En se levant de table, elle fit observer à son père que pour dire toutes les belles choses qu'il aurait à dire le surlendemain, Pitou était bien pauvrement mis, qu'il jouait le rôle du maître, puisque c'était lui qui instruisait, et que le maître ne devait pas avoir à rougir devant ses disciples. Billot autorisa sa fille à s'entendre de l'habillement de Pitou avec M. Dulauroy, tailleur à Villers-Cotterêts. Catherine avait raison, et un nouvel habillement n'était pas chose de luxe pour le pauvre Pitou. La culotte qu'il portait était toujours celle que lui avait fait faire 5 ans auparavant le docteur Gilbert, culotte qui, de trop longue, était devenue trop courte, mais qui, il faut le dire, avait, par les soins de mademoiselle Angélique, allongé de 2 pouces par année. Quant à l'habit et à la veste, ils avaient disparu depuis plus de 2 ans et avaient été remplacés par le sarrau de serge avec lequel notre héros s'est, dès les premières pages de notre histoire, présenté aux yeux de nos lecteurs. Pitou n'avait jamais songé à sa toilette. Le miroir était chose inconnue chez mademoiselle Angélique, et n'ayant point, comme le beau Narcisse, des dispositions premières à devenir amoureux de lui-même, Pitou ne s'était jamais avisé de se regarder dans les sources où il tendait ses gluaux. Mais depuis le moment où mademoiselle Catherine lui avait parlé de l'accompagner à la danse, depuis le moment où il avait été question de monsieur de Charny, cet élégant cavalier, depuis l'heure où cette histoire des bonnets sur lesquels la jeune fille comptait pour augmenter sa beauté avait été versée dans l'oreille de Pitou, Pitou s'était regardé dans une glace et, attristé du délabrement de sa toilette, il s'était demandé de quelle façon, lui aussi, pourrait ajouter quelque chose à ses avantages naturels. Malheureusement, à cette question, Pitou n'avait pu se faire aucune réponse. Le délabrement portait sur ses habits. Or, pour avoir des habits neufs, il fallait de l'argent, et de sa vie, Pitou n'avait possédé un denier. Et Pitou avait bien vu que, pour disputer le prix de la flûte ou des verres, les bergers se couronnaient de roses, mais il pensait avec raison que cette couronne, si bien qu'elle pût aller à l'air de son visage, n'en ferait que plus ressortir la pauvreté du reste de son habillement. Pitou fut donc surpris, d'une façon bien agréable, quand le dimanche à 8 heures du matin, tandis qu'il méditait sur les moyens d'embellir sa personne, Duloroy entra et déposa sur une chaise un habit et une culotte bleue de ciel avec un grand gilet blanc à raies roses. En même temps, la lingère entra et déposa sur une autre chaise en face de la première une chemise et une cravate. Si la chemise allait bien, elle avait ordre de confectionner la demi-douzaine. C'était l'heure des surprises. Derrière la lingère apparut le chapelier. Il portait un petit tricorne de la forme la plus nouvelle, plein de tournure et d'élégance, ce qui se faisait de mieux enfin chez Monsieur Cornu, premier chapelier de Villers-Cotterêts. Il était en outre chargé par le cordonnier de déposer au pied de Pitou une paire de souliers à boucles d'argent faites à son intention. Pitou n'en revenait pas. Il ne pouvait pas croire que toutes ces richesses fussent pour lui. Dans ses rêves les plus exagérés, il n'aurait pas osé désirer une pareille garde-robe. Des larmes de reconnaissance mouillèrent ses paupières et il ne put que murmurer « Oh, mademoiselle Catherine, je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi. » Tout cela allait à merveille, comme si l'on eût pris la mesure à Pitou. Il n'y avait que les souliers qui se trouvaient de moitié trop petits. Monsieur Laudreau, cordonnier, avait pris la mesure sur le pied de son fils qui avait 4 ans de plus que Pitou. Cette supériorité de Pitou sur le jeune Laudereau donna un moment d'orgueil à notre héros, mais ce mouvement d'orgueil fut bientôt tempéré par l'idée qu'il serait obligé d'aller à la danse sans souliers ou avec ses vieux souliers qui ne cadreraient plus du tout avec le reste de son costume. Mais cette inquiétude fut de courte durée. Une paire de souliers que l'on envoyait en même temps au père Billot fit l'affaire. Il se trouva, par bonheur, que le père Billot et Pitou avaient le même pied, ce que l'on cacha avec soin au père Billot de peur de l'humilier. Pendant que Pitou était en train de revêtir cette somptueuse toilette, le perruquier entra. Il divisa les cheveux jaunes de Pitou en 3 masses, l'une, et c'était la plus forte qu'il destinait à retomber sur son habit sous la forme d'une queue, les 2 autres, qui eurent mission d'accompagner les 2 tempes sous le nom peu poétique d'oreilles de chien, mais que voulez-vous, c'était le nom. Maintenant, avouons une chose, c'est que lorsque Pitou peignait, frisait avec son habit et sa culotte bleue, avec sa veste rose et sa chemise à jabot, avec sa queue et ses oreilles de chien, se regarda dans la glace, il eut grand-peine à se reconnaître lui-même et se retourna pour voir si Adonis en personne ne serait pas redescendu sur la terre. Il était seul, il se sourit gracieusement et la tête haute, les pouces dans les goussets, il dit en se dressant sur les orteils « Nous verrons ce monsieur de Charny ». Il est vrai qu'Ange Pitou, sous son nouveau costume, ressemblait comme 2 gouttes d'eau, non pas à un berger de Virgile, mais à un berger de Watteau. Aussi, le premier pas que Pitou fit entrant dans la cuisine de la ferme fut un triomphe. « Oh, voyez donc, maman !» s'écria Catherine, « comme Pitou est bien ainsi !»« Le fait est qu'il n'est pas reconnaissable, » dit Madame Billot. Malheureusement, de l'ensemble qui avait frappé Catherine, la jeune fille passa aux détails. Pitou était moins bien dans les détails que dans l'ensemble.
Oh, c'est drôle, dit Catherine, comme vous avez de grosses mains.
Ah oui, dit Pitou, j'ai de fières mains, n'est-ce pas?
Et de gros genoux.
Ah, c'est preuve que je dois grandir.
Mais il me semble que vous êtes bien grand assez, monsieur Pitou.
Oh, c'est égal, je grandirai encore, je n'ai que 17 ans et demi.
Et pas de mollets.
Ah, c'est vrai, pas du tout, mais ils pousseront.
Faut espérer, dit Catherine.
Oh, c'est égal, vous êtes très bien.
Pitou salua.
Oh, dit le fermier en entrant et en regardant Pitou à son tour, comme te voilà brave, mon garçon, je voudrais que ta tante Angélique te vit ainsi.
Ah, moi aussi, dit Pitou.
Je m'étonne bien de ce qu'elle dirait, fit le fermier.
Elle ne dirait rien, elle ragerait.
Mais papa, dit Catherine avec une certaine inquiétude, est-ce qu'elle n'aurait pas le droit de le reprendre,
puisqu'elle l'a chassé?
Et puis, dit Pitou, les 5 années sont écoulées.
Lesquelles? Demanda Catherine.
Mais celles pour lesquelles le docteur Gilbert a laissé 1000 francs.
Il avait donc laissé 1000 francs à ta tante?
Oui, 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 pour me faire faire mon apprentissage.
En voilà un homme, dit le fermier, quand je pense que tous les jours j'en entends raconter de pareils. Aussi pour lui, il fit un geste de la main, c'est à la vie, à la mort.
Il voulait que j'apprisse un état, fit Pitou.
Et il avait raison. Ah, voilà pourtant comment les bonnes intentions sont dénaturées. On laisse 1000 francs pour faire apprendre un état à un enfant, et au lieu de lui apprendre un état, on vous le met chez un calotin qui veut en faire un séminariste. Et combien lui payait-elle à ton abbé Fortier?
Qui?
Mais ta tante.
Elle lui payait rien.
Alors elle empochait les 200 livres de ce bon monsieur Gilbert?
Probablement.
Écoute, si j'ai un conseil à te donner, Pitou, c'est quand elle claquera ta vieille bigote de tante, c'est de bien regarder partout, dans les armoires, dans les paillasses, dans les pots à cornichons.
Pourquoi? Demanda Pitou.
Parce que tu trouveras quelques trésors, vois-tu, des vieux louis dans un bas de laine, et sans doute car elle n'aura pas trouvé de bourse assez grande pour mettre ses économies.
Vous croyez?
J'en suis sûr, mais nous parlerons de cela en temps et lieu. Aujourd'hui, il est question de faire un petit tour. As-tu le livre du docteur Gilbert?
Je l'ai là, dans ma poche.
Mon père, dit Catherine, avez-vous bien réfléchi?
Il n'est pas besoin de réfléchir pour faire de bonnes choses, mon enfant, dit le fermier.
Le docteur me dit de faire lire le livre, de propager les principes qu'il renferme. Le livre sera lu et les principes seront propagés.
Et, dit Catherine avec timidité, nous pouvons aller à la messe, ma mère et moi.
Allez à la messe, dit Billot, vous êtes des femmes, mais nous qui sommes des hommes, c'est autre chose. Viens, Pitou.
Pitou salua madame Billot et Catherine et suivit le fermier, tout fier d'être appelé un homme.